Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Ouamakar.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienni.
Haloud Mouni.
Chienni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Fin de la MINUSMA au Mali, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali se retire du pays, un retrait qui débute dès ce 1er juillet à 0h et devrait prendre fin au plus tard le 31 décembre 2023. Ainsi en a décidé le Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui même, les autorités maliennes avaient demandé un retrait sans délai de la mission onusienne le 16 juin dernier, estimant qu'elle a échoué. Alors, quelle analyse de cette décision? Quelles seront ses conséquences? Comment envisager l'avenir sans la MINUSMA? Quelles leçons à tirer pour le Mali et l'ONU? Sido Tamani pose le débat avec nos invités. Aujourd'hui, ils sont au nombre de trois. Dr Ali Tunkara, chercheur et directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, CE3S. Bakabini Keïta, analyste politique et directeur de l'Observatoire du pouvoir et de la société. Cheikh Omar Doumbia, également analyste politique. Pour modérer ce débat, je suis Sekou Gadjigo. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, merci chers invités d'être là. Je le disais tout de suite, le Conseil de sécurité a acté le retrait de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, déployée depuis une dizaine d'années. Je vous invite à écouter l'ambassadeur du Mali aux Nations Unies, Issa Konfouro.
Tout en reconnaissant que la MINUSMA n'a certes pas atteint son objectif fondamental d'appui aux efforts du gouvernement à la sécurisation du pays, le peuple et le gouvernement de la République du Mali saluent toutefois sa contribution dans d'autres domaines, notamment en matière d'assistance humanitaire, sociale et les missions de bons offices. Le gouvernement de la République du Mali tient et veillera au respect des engagements pris. Dans cette dynamique, le Mali, conformément à sa responsabilité de pays hôte, poursuivra les mesures prises en vue d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel, des locaux, installations et biens de la MINUSMA jusqu'au départ à date convenue de la mission. Par ailleurs, je tiens à rassurer de l'engagement total du gouvernement du Mali à poursuivre sans relâche sa mission régalienne de protection des populations civiles et des biens sur l'ensemble du territoire national.
Alors, Cheikh Omar Doumbia, analyste politique, est-ce que cette décision du Conseil de sécurité vous a surpris?
Absolument pas, parce que déjà depuis la demande effectuée par les autorités maliennes, la France qui portait le dossier a émis en tout cas un premier brouillon de résolution qui prévoyait la confirmation de ce retrait-ci et qui avait déjà fait le tour des États membres. Donc il y avait le climat, en tout cas ces derniers jours, prouvait que la mission allait se retirer.
Comment vous analysez cette décision alors?
Alors, c'est à la fois, c'est un ras-le-bol des deux côtés. C'est un ras-le-bol des autorités actuelles maliennes ainsi qu'une partie de la population malienne qui affirme que la MINUSMA n'est pas en train de servir, en tout cas, les objectifs que eux ils souhaiteraient qu'elle serve. Donc, de l'autre côté, c'est un ras-le-bol des États parties prenantes de la mission qui sont en train de dire ah, si nous mettons suffisamment en danger nos hommes et si nous mettons suffisamment de moyens à leur disposition pour contribuer à stabiliser un pays, ce pays n'est pas d'avis avec nous ou ne reconnaît pas nos efforts. Il serait mieux de nous retirer.
Bakabini Keïta, comment vous analysez cette décision du Conseil de sécurité qui décide de retirer la MINUSMA du Mali?
Bon, il faut quand même rappeler que ce n'était pas la position quand même initiale du Conseil de sécurité. Quoique à un moment donné, dans le rapport trimestriel, je crois, des Nations Unies sur l'opération donc au Mali, de maintien de paix au Mali. Donc je pense qu'il y avait, une proposition ou des propositions qui avaient été faites par le secrétaire général des Nations Unies. Donc je pense que dans ces propositions, nulle part, il n'avait été question chez lui, en tout cas, du retrait de l'amnistie. Et je pense que du côté, il y avait une discussion quand même forte par rapport à la modalité de renouvellement. Et je crois que c'est à ce niveau où les choses n'ont pas du tout marché, parce que ce que le Conseil de sécurité, à travers son secrétaire général, proposait, donc ne faisait pas l'affaire du Mali. Et je crois, entre autres, des trois propositions du secrétaire général. Et il y avait effectivement la transformation de l'aménagement d'une mission sécuritaire en une mission intégralement. Donc c'était partiellement une mission politique, mais intégralement, donc le secrétaire général voulait faire passer l'aménagement en une mission politique. Et je crois que c'est ce qui constituait pour les autorités maliennes un piège dans lequel elles ne voudraient vraiment pas tomber. Donc ce n'est pas surprenant, je pense qu'il y avait énormément d'indices. Je l'avais dit sur ce même plateau il y a, je crois, un mois ou un peu plus, que je pouvais parier à 80% que la mission n'allait pas être renouvelée, le mandat n'allait pas être renouvelé au regard des tensions qui existaient entre les autorités maliennes et le Conseil de sécurité à travers son secrétaire général, qu'il est inutile de rappeler ces tensions-là. Mais aussi, de l'autre côté, mon collègue ou mon co-débatteur l'a dit, Cheikh Oumar Doumbia, qu'il y avait effectivement une tension aussi au niveau de la population. Même si effectivement il y a une partie aussi de la population qui s'agite parce que l'aménagement a apporté beaucoup de soulagement sur le plan social, sur le plan humanitaire. Mais la grande majorité des Maliens voudraient que le mandat de l'aménagement prenne fin dans notre pays. Et je crois que c'est ce qui a été fait.
D'accord. Docteur Ali Tunkara, pour Cheikh Oumar Doumbia, il s'agit d'un ras-le-bol des deux côtés. Pour Bakabini, un désaccord entre les deux parties sur les modalités de fonctionnement de l'aménagement ici. Pour vous, qu'est-ce que vous pouvez ajouter à cela comme analyse ?
Non, très rapidement, je pense que les deux arguments soutenus sont tout à fait justes, mais quand on regarde la succession des sorties fracassantes entre les autorités maliennes et la présence onusienne au Mali, certes, la temporalité pourrait paraître un peu surprenante, mais que la mission mette un terme irrévocable à sa présence n'avait rien de surprenant. Du dossier ivoirien en passant par des rapports trimestriels produits par les Nations Unies, lesquels rapports mettaient quand même en cause ou portaient des accusations graves à l'encontre de l'armée malienne, même à la limite d'épuration ethnique. C'est là également les différents scénarios dont M. Keïta parlait, qui avaient été pensés, réfléchis par les experts des Nations Unies, dont l'élite militaire au pouvoir, vous direz qu'elle n'a pas été associée dans ces scénarios, à fortiori de les partager. Donc tout ceci nous laisse entendre que la mission allait prendre fin. Mais maintenant, je pense que ce qui a été surprenant, c'est le fait qu'elle n'a pas été renouvelée, ne serait-ce que d'un an. Il fallait-il mettre un terme à la mission ou fallait-il envisager à ce que la fin interviendrait dans un avenir relativement long? Ceux qui ont aujourd'hui la destinée du pays vous diront que, au regard du climat tendu entre Bamako et New York, au regard des accusations qui finiront par saper le moral des troupes, au regard même des finalités recherchées par la mission, notamment la mise en œuvre de l'accord pour la paix, rappelons-le quand même, c'est un accord qui peine à avoir un ancrage local. Non pas parce qu'il y a des militaires au pouvoir, avant que les militaires ne le soient, c'est un accord qui reste toujours au paix partagé par les Maliens. L'autre mission, qui expliquerait aussi la présence de l'aménagement, c'est ce soutien politique. Pour les autorités maliennes, les différentes localités en proie aux attaques terroristes, même aux conflits locaux, ont été investies par l'armée, dont la mission onusienne était censée réinvestir ces localités nettoyées. Tout cela, on se rend compte que finalement, entre le Mali et les Nations Unies, s'il y a une victime, c'est vraiment la réalité. On ne sait pas qui a raison, qui n'en a pas raison. Mais ce qui est évident, en écoutant les deux parties, il était quand même utile de mettre un terme à la mission, au regard aussi, quand même, du point de vue analytique, le positionnement dont certaines puissances économiques et militaires faisaient l'objet par cette présence onusienne au Mali. Donc, une mission qui est devenue au bout du tunnel, un champ de compétition entre les puissances militaires, malheureusement.
Oui, mais c'est une première, hein, docteur. Je ne dirais pas, en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une telle décision du Conseil de sécurité de mettre fin à une mission déployée dans un pays, surtout à la demande de ce pays. Alors, comment vous analysez cela? Est-ce que ça ne risque pas de créer un précédent, que d'autres pays tentent la même chose?
Et absolument. Les experts sont unanimes dessus et ils ont compris que certainement il fallait changer la nature de certaines choses dans l'approche internationale elle-même de la politique et qu'il fallait revoir les nouvelles influences qui s'installent. D'un point de vue, quand nous regardons en tout cas de nombreuses analyses qui sont faites au niveau du secrétariat d'État américain, ils réfléchissent en se disant que peut-être quelque part la Russie crée un monnaie d'échange dans le Sahel à travers le Mali par rapport à la situation ukrainienne. Donc, pour ces États-là même, se protéger, c'est très vite sortir de cet espace-là. Donc, ils sont en train de réfléchir à eux-mêmes et non d'agir selon ce que nous sommes en train de leur proposer. Et encore une fois, ça revient à cette même dynamique qu'il faut étudier, la dynamique des relations internationales, où la position que le Mali essaye d'adopter, cette fois-ci avec beaucoup plus de, on va dire, de tenus, beaucoup plus de combativité dans le discours, et cette position n'a pas énormément d'alliés ou n'en a qu'un seul, en principe, dans le concert des nations. Donc les autres nations vont légitimement se dire, est-ce qu'il faut continuer à être présent? Est-ce qu'il faut continuer à mettre de l'argent? Est-ce qu'il faut continuer à risquer la vie de leurs troupes dans un climat qui n'est pas favorable à leur présence? Et les études vont le montrer. Partout où des troupes étrangères ont été présentes et qu'une partie de la population ne s'est pas rendue favorable, cela n'a pas arrangé la situation. Et les puissances, à commencer par les États-Unis, vivent ça, ont vécu ça en Irak, en Afghanistan, et tout le monde le vit parce que l'OTAN participe à tout ça et les membres du Conseil de sécurité sont en majeure partie membres de l'OTAN. Donc, ce précédent se crée, mais je doute fort que ça devienne une continuité parce que si nous regardons un peu aussi du côté du Soudan, le retrait de la mission a été très vite succédé par un chamboulement des événements qui va vraiment dans l'extrême négatif. Donc, aujourd'hui, est-ce que le Conseil de sécurité veut se porter garant d'une possibilité de nouvelles difficultés qui apparaissent au Mali? Absolument pas. Ils veulent se laver les mains, ils veulent nier leur responsabilité dans cette affaire-là et faire confiance à ce que le Mali dit en se disant qu'avec ses choix de nouveaux partenaires et avec sa nouvelle dynamique, il pourra faire face à ses propres défis.
Mais selon vous, quand est-ce que ça a commencé, cette tension entre le Mali, en tout cas, et cette relation quelque peu difficile entre le Mali et les Nations Unies? Comment on peut l'expliquer?
Alors, les relations sont toujours difficiles lorsque il y a une mission présente dans un pays, parce que les questions d'ingérence vont se poser et les questions de partialité des missions ont toujours fait l'objet de beaucoup de débats. Il faut se souvenir que déjà, même lors de la cérémonie de signature de l'accord issu du processus d'Alger, le président Ibeka avait fait un discours allant dans le sens en réclamant, on va dire, une certaine forme d'impartialité de la part des Nations Unies. Donc ça a toujours été demandé. Et ces débats existent toujours. Mais néanmoins, les États font preuve de diplomatie en mettant la discussion avant et en permettant à ce que ces discussions puissent conduire néanmoins à des compromis qui permettent aux États d'exceller et aux missions d'atteindre les objectifs qui sont les leurs. Les missions onusiennes sont connues pour avoir une durée de vie excessivement longue. Elles durent en moyenne 30 à 40 ans là où elles s'installent. Donc aujourd'hui, pour un pays de demander le retrait après 10 ans...
Est-ce que cela n'explique pas leur inefficacité aussi?
Je pense que non. Dans notre cas, en tout cas, dans le cas malien, les attentes du peuple et les objectifs assignés à la mission ne sont pas sur la même ligne. Il a toujours existé une asymétrie à ce niveau. Il l'a signalé, l'accord n'a pas été accepté de tous au Mali, mais l'accord est un pilier clé, sa mise en œuvre est un pilier clé de la présence onusienne. Encore une fois, on a demandé à cette mission d'aider les autorités maliennes, en tout cas la gouvernance, à se fortifier, à se stabiliser. Et pendant ce temps, on fait face à un coup d'État, on fait face même à plusieurs coups d'État et d'énormes changements politiques, ce qui fait que la mission est arrivée dans un contexte qui n'est pas le contexte actuel. Donc c'est comme si la musique a changé sans que la chorégraphie ne change, et cela ne fait que du danseur un mauvais danseur.
– D'accord. Bakabini Keïta, vous le disiez tantôt, il y a eu un désaccord entre les autorités maliennes et le secrétaire général qui avait proposé des options concernant la réadaptation de l'aménagement. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le gouvernement de la transition et l'ONU n'appréhendaient pas le problème malien de la même façon? Sinon, pourquoi ce désaccord?
Bon, il ne peut pas appréhender le problème de la même manière. Parce que je pense que pour le comprendre, il faut partir d'un constat. C'est que partout où les Nations Unies interviennent, très généralement, et ça a été tout le temps le cas, les Nations Unies interviennent le plus souvent pour la préservation des intérêts d'un certain nombre de pays, de puissances. Et ça, c'est, on peut le contester si on le veut, mais c'est un constat, c'est un fait qui est là. Et vous prenez n'importe quelle intervention des Nations Unies. Vous prenez le cas le plus récent, le cas de la Libye, par exemple. Le Conseil de sécurité est constitué fondamentalement de 5 pays, à savoir les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine et puis la Russie. Pendant longtemps, il y a 2 pays qui se sont mis en réserve. Pratiquement, les décisions au niveau du Conseil de sécurité étaient prises par 3 pays, qui sont des alliés naturels pratiquement, à savoir les États-Unis, l'Angleterre et la France, et qui mènent la danse. Et pour comprendre ça aussi, il faut partir du principe politique occidental qui est bâti sur la distinction de 2 logiques, la logique de la politique intérieure et la logique de la politique extérieure. La politique extérieure est bâtie sur, évidemment, le droit international, mais ce droit international ne fait que déguiser une force pour défendre en fait les intérêts des puissances occidentales. Et donc le Mali, malheureusement, le contexte est tel que le Mali avec, comment dirais-je, l'aménagement, on parle de l'aménagement, mais en réalité c'est la France qui a demandé, c'est la France qui a demandé au nom du Mali à ce que l'aménagement arrive dans notre pays. Donc on a mis ça au compte des autorités à l'époque, je crois depuis la transition dirigée par Diongunda et ensuite Ibeka. Donc on a tout le temps dit que c'est le Mali qui a fait la demande, c'est le Mali qui a fait la demande. Mais au fond, c'est la France qui a fait la demande. Et donc c'était...
Mais est-ce que cela peut expliquer le fait que l'aménagement soit devenu mal aimé au Mali?
Oui,
est-ce que la détérioration des relations entre le Mali et la France peut expliquer cela?
Non, je suis en train de dire que très généralement, si l'aménagement défend un pays, il faudrait que le pays, les autorités de ces pays-là jouent en faveur des intérêts d'un certain nombre de pays, à savoir la France, les États-Unis, l'Angleterre. Si tel n'est pas le cas, vous allez voir qu'il y aura des problèmes entre effectivement la mission de l'Organisation des Nations Unies et ce pays-là. Je peux vous citer le cas de la Côte d'Ivoire, je peux vous citer le cas de la Libye. Donc, vous avez vu dans ces pays-là qu'en réalité, on voulait défaire un régime parce que ce régime n'est pas favorable à l'intérêt d'un certain nombre de pays. Et c'est le cas aussi au Mali. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir ont pris une option. Et cette option, c'est quoi? C'est qu'ils ont compris que notre pays est mis sous tutelle d'un certain nombre de puissances. Et donc, pour tirer notre pays de cette tutelle-là internationale, donc ils ont pensé, stratégiquement, ils ont voulu composer avec la Russie. Il faut nommer les choses, le pays par son nom. Et même pas seulement avec la Russie, mais il y a aussi la Chine, mais il y a aussi l'Iran. Quand certains disent que le Mali est isolé, ou plutôt que le Mali n'a qu'un seul soutien au plan international, moi, je crois que ça, c'est une grosse erreur, ou en tout cas, c'est une mauvaise foi à ne pas reconnaître qu'il y a
plein d'autres pays qui soutiennent le Mali dans sa logique. Ceux qui parlent, ceux qui agissent, et ceux qui ne parlent pas, ceux qui n'agissent pas, ou ceux qui agissent en sourdine, qui ne sont pas vus parce qu'il y a des intérêts. Par exemple, si vous prenez la Turquie vend des armes au Mali. Mais si vous prenez, par exemple, des pays comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, non seulement ils refusent de vendre des armes au Mali, hein, deux, même si le Mali achète des armes, on les bloque. C'est le cas, par exemple, du Casa commun, là, qui avait été bloqué un moment. Parce que, tout simplement, donc, ces pays-là estiment que le Mali, aujourd'hui, est dirigé par des gens qui sont contre leurs intérêts.
D'accord. Docteur Ali Tounkara, si on pouvait parler maintenant du bilan de cette mission de la MINUSMA au Mali. Mais avant de vous donner la parole, nous avons fait réagir quelques habitants de certaines localités dans les régions de Gao, Bandiagara, Tombouctou. Je vous invite à écouter ce micro-trottoir.
Depuis la création des Nations Unies, dans aucun pays où l'armement a amené la paix, ils ont toujours essuyé.
Moi, je connais la souffrance que nous allons vivre après l'armement. Au jour d'aujourd'hui, elle est centrée au centre même de notre économie, dans nos régions du Nord.
S'ils ne peuvent pas assurer la mission pour laquelle ils ont été envoyés, ils doivent partir.
Sincèrement, ces gens travaillent. Ils donnent de l'emploi aux populations.
Nous allons gérer nous-mêmes notre pays. C'est mieux que de le faire avec des étrangers. Eux, ils le font pour l'aide.
Certains disent que la MINUSMA a des défauts, mais nous savons qu'elle fournit de l'eau aux populations.
Si la MINUSMA s'en va, on aura la stabilité. À chaque fois qu'elle passe quelque part, il y a problème.
Alors, docteur Ali Tounkara, quand on écoute ces réactions, on peut dire que la MINUSMA est créditée au Mali d'un bilan mitigé.
Je pense que les perceptions vis-à-vis de la nature du mandat et de son utilité, son fonction d'intensité des conflits et des acteurs en présence. De façon simple, si vous prenez Douanza à Kidal, effectivement, majoritairement les communautés qui vivent dans ces localités vous diront que l'aménagement est utile. Elles mettront difficilement l'accent sur son apport sécuritaire, mais plutôt tous ses services qu'elle a su délivrer en termes d'accès à l'eau potable, en termes de sécurisation des marchés,
services sociaux de base.
Services sociaux de base, dont l'État il est quand même le garant en tant que fonction régalienne. De l'autre côté, vous allez voir.
Mais est-ce que ça fait partie du mandat de la
MINUSMA ? C'est là qu'il y a quand même un décalage entre les attentes des populations et le mandat de la mission. Deux éléments caractérisent la légitimité de la mission au Mali. Le premier, je le disais à l'entame de mon propos, à comment mettre en œuvre de façon effective et réelle l'accord pour la paix et la réconciliation. Or, cet accord, on est quand même d'accord qu'il a été signé dans un contexte où le Mali était aux abois. Mais dans le même temps, les hommes en armes qui ont brandi cet accord pour la paix et la réconciliation l'ont fait au nom de populations majoritairement qui ne se reconnaissent pas dans cet accord pour la paix. C'est ça le fond du problème. Donc, l'accord déjà est conçu à partir d'un diagnostic biaisé parce qu'il a été conclu au nom des populations dites nord du Mali, lesquelles populations ont été prises en otage par une infime partie armée majoritairement de la région de Kidal. Donc vous voyez qu'il y a un biais. Le deuxième élément qui est le soutien politique à l'État du Mali, notamment le retour de l'administration dans les localités qui ont été désertées à la suite des événements de 2012. Là également il y a un problème parce que pour les autorités maliennes, en l'occurrence celles qui sont aux commandes aujourd'hui, elles vous diront que nous attendons de l'aménagement. Une fois que nos hommes ratissent de localité et qu'ils arrivent à s'installer durablement et protéger les populations, et non de se contenter de donner de l'électricité ou de rénover des écoles ou des infrastructures sanitaires. Clairement, ce décalage, il n'est pas que populaire, il est aussi observable avec l'élite politique au pouvoir. Donc, de là déjà, il est aisé de comprendre que les perceptions sont vraiment fonction des acteurs en présence, mais lorsqu'on s'en tient aux deux objectifs initiaux qui expliquent la mission, qu'on soit avec la CEDEAO, on dira qu'effectivement, ces objectifs n'ont pas été atteints. Et de même, d'ailleurs, il ne faut quand même pas l'occulter, il y a des voix discordantes au sein du Conseil de sécurité qui reconnaissent que de 2012 à aujourd'hui, serait la mission à apporter pas mal de soutien à l'État du Mali, notamment lors des élections précédentes. La mission a même permis à l'armée malienne de se mouvoir dans certaines localités en lui dotant de carburant, on ne le dit pas suffisamment. La mission a même permis, jusqu'à l'arrivée des militaires au pouvoir, de transporter pas mal de militaires de Mopti jusqu'à Kidal. Donc pour dire que sur ce plan, l'utilité, elle est sans équivoque. Mais franchement, quand on est dans l'analyse, les raisons pour lesquelles la mission est investie au Mali, ces raisons sont loin d'être satisfaisantes objectivement. Et là où elles deviennent embrassantes, lorsque une présence onusienne se substitue à des compétitions entre les puissances, c'est quand même ça aujourd'hui dans les dossiers maliens. Je prends juste un exemple pour que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent. En pleine opération militaire, la France étant en bout diplomatique avec le Mali, parle déjà des violations. Il y a quand même un problème. Comment peut-on savoir qu'une action militaire en cours n'obéit pas déjà aux droits internationaux humanitaires et aux droits de l'homme? Ça pose problème du point de vue analytique. Et de même également, il est tout à fait aisé d'observer qu'il y a un certain nombre de pays qui brandissent toujours, au terme de passage de force des éléments de sécurité, d'épuration ethnique. Ça, ce sont des éléments, quand on est sérieux avec l'analyse, qui nous laissent entendre que l'aménagement elle-même, malheureusement, a fini par tomber dans le piège de compétition entre les puissances militaires.
D'accord. Docteur Cheikh Oumar Doumbia, est-ce que vous partagez cette analyse de docteur Tunkara quant aux objectifs de l'aménagement?
Ça dépend, parce que c'est une question de lecture. Quand on regarde, comme il l'a cité, le contexte dans lequel l'accord est intervenu, les conflits au nord ont eu un fondement de base, c'est l'absence des infrastructures pour les populations.
– Mais bien avant l'accord, oui. La mission initiale.
– Et c'est déjà ça, non. L'accord va intervenir dans la mission vient pour assurer l'accord. Donc avant l'accord, comment est-ce que le conflit s'est déclaré? Le conflit s'est déclaré parce que, ne serait-ce même si c'est une infime partie de la population, des gens ont pensé que l'État malien n'était pas suffisamment en train de s'occuper de leur sort. Et ça, c'est vérifiable à un certain niveau, parce que nous avons des circonscriptions qui n'ont jamais eu de représentation. Des gens qui peuvent naître et atteindre 16-17 ans, ils n'ont jamais vu le drapeau malien, vérifiable sur le terrain. On est parti, on a vu des cas comme ça. Donc, quand la mission vient et qu'elle se dit « Ok, pour moi, pour ramener la paix, il va falloir m'occuper de certaines choses dans ce sens-là », elle n'a pas forcément tort. La solution militaire à elle seule ne va pas résoudre notre problème et tous les experts sont unanimes dessus. On sait qu'il y a des raisons sociales et économiques et d'ailleurs de sécurité humaine qui font que le conflit perdure, qui facilite en fait que les groupes terroristes ou les groupes armés, les groupes bandits puissent recruter des jeunes parce qu'ils manquent de certaines ressources, parce que les écoles sont fermées, parce qu'ils n'ont pas accès à la santé, parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable. Donc quand la mission décide d'apporter ces choses-là, ça contribue à apporter la paix et ça contribue à la mise en œuvre de l'accord. On ne peut pas non plus faire, et c'est là où on se trompe, où on est en désaccord très généralement avec certaines analyses, c'est qu'on veut se dire que l'application de l'accord est simplement politique. L'accord n'est pas simplement politique. Elle est aussi d'ordre social et économique. Donc, dans la partie où il faut mettre l'accord de façon socio-économique, la mission a contribué, et à grande hauteur, à grande échelle. Ah, c'est une première chose. Seconde chose, quelque chose qui garde les jeunes de s'intégrer dans tout ce qui est mouvement rebelle, dans groupe armé, c'est quoi? C'est qu'ils aient un emploi. Et dans ces jeunes-là, aujourd'hui, si la mission n'est pas employeur numéro un, je ne vois pas qui d'autre. Et ça, c'est des vérités qu'il faut avoir le courage de dire et d'admettre. Maintenant, l'État malien est-il en mesure de satisfaire à ces besoins-là? Nous savons que tout de suite et maintenant, ce n'est pas le cas. Donc ça va créer un nouveau vide, et ce vide aura certainement des conséquences contre lesquelles il faut se préparer. Maintenant, si on fait une analyse militaire, parce que c'est là où le bât blesse, on demande à cette mission de jouer un rôle de riposte face à la menace terroriste. On les appelle des soldats de la paix pour une bonne raison. Et ça, c'est une réalité. Il fallait, dès le départ, dire à cette mission que non, nous voulons une assistance militaire réelle, concrète. Pas que nous voulions des soldats de la paix dans ce format-ci. Et ça n'a pas été précisé et on n'a pas su le corriger à chaque fois qu'il fallait renouveler le mandat. Sinon, on avait l'option, il fallait le faire, il fallait proposer une militarisation entière de cette mission. Ça arrive, des États ont réussi à le faire, à demander un appui militaire serein de la part des Nations Unies et ça s'est produit. Donc nous, on n'a pas eu ça et parce que ce n'est pas ce que nous avons demandé et parce que ce n'est pas ce qui est dans la mission de ce pays. Et l'autre chose, moi, parlant de cette compétition entre puissances, moi, je suis désolé, je ne vois pas les choses comme ça. Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de compétition au sein du Conseil de sécurité. Ah bon ? Pour ceux qui sont spécialistes des relations internationales. Et je ne suis pas dans une lecture objective. J'ai étudié ces choses-là, j'ai travaillé dans ces choses-là. Il ne peut pas y avoir de compétition pour une première raison. La première raison, elle est économique. Ces missions sont financées. Et chaque État, on sait qui finance quoi et comment. On sait qui assure la logistique. On sait qui a quel rôle. Dès le départ de la mission, dès sa structuration, on sait qui joue quel rôle et qui s'occupe de quel volet et dans quel sens. Et selon les expertises et les demandes des États. Donc les États ne sont pas dans cette optique-là. Le souci qu'il y a eu entre le Mali et la France est une réalité. Et il n'est pas forcément dit que les États membres du Conseil de sécurité ou les plus grands donateurs ou contributeurs de la mission sont d'accord avec la France. L'Allemagne a fait la preuve en disant que non, ils ne sont pas d'accord avec l'approche française et qu'ils se désolidarisent de ça. Nous avons vu plusieurs formes de désolidarisation de certaines puissances. Il ne faut pas non plus contraindre notre diplomatie à voir tout l'Occident comme un seul État qui serait appelé la France. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est quand même se leurrer. Et la preuve réelle est que jusqu'à aujourd'hui, des États sont en train de travailler avec nos autorités actuelles pour apporter leur soutien militaire parce que c'est ce qu'on leur a demandé. D'accord. Mais par rapport à la mission, ce n'est pas ce qui avait été demandé. D'accord. Et la mission sert ses objectifs.
D'accord. Les États-Unis l'ont même précisé aujourd'hui que malgré ce retrait de la MINUSMA, les Nations Unies resteront aux côtés du Mali. Bakabini, en réponse à cette analyse de Cheikh Oumar Doumbia qui parle d'une demande, en tout cas une demande mal formulée ou bien même qui n'a pas été faite par le Mali concernant le mandat de la MINUSMA, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a eu plusieurs renouvellements de mandats. Les autorités maliennes n'ont jamais demandé ce mandat que souhaitait la majeure partie des populations maliennes, c'est-à-dire une mission capable de faire face aux groupes terroristes.
Non, bon, enfin, je pense que le problème des Nations Unies, de l'aménagement, n'est pas un problème de mandat. Et ça, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Mmh. La demande en question a été faite par le président Ibeka, qui avait demandé, je crois, à un moment, le mandat robuste. Mais on a toujours dit que le mandat qui est attribué au Mali, les Nations Unies ne peuvent pas aller au-delà de ce mandat-là. Je crois que ça a été dit. Bon, mais ce n'est même pas un problème de mandat. C'est que ça soit le mandat soit robuste ou pas. Moi, j'ai dit, il faut comprendre que quand Doumbia a dit qu'il n'y a pas de compétition entre les nations au sein du Conseil de sécurité, moi, je suis quand même désolé. On a eu beaucoup de fois. Il y a beaucoup d'exemples où, effectivement, il y avait ce problème-là. Et la Russie et la Chine ont dénoncé la trahison des Occidentaux concernant, en tout cas, la résolution qui avait été votée et qui autorisait les Nations Unies à procéder à ce qu'on appelle l'interdiction de vol des avions de guerre de Kadhafi pour massacrer sa population. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé la résolution. Ils sont intervenus sur sol pour aller traquer Kadhafi lui-même, le tuer, le traîner à bout. Oui. Ça a été fait. Ça, c'est vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas.
C'est ça la compétition.
Non, je dis c'est un exemple. Mais okay. Dans d'accord. Le cas du Mali également.
D'accord. On reste au Mali.
Oui, oui, dans le cas du Mali, dans le cas du Mali également. Donc il y a la compétition effectivement entre ces pays-là. Et regardez par exemple le rapport qu'on a fait sortir. Il a parlé de d'incitation à la haine ethnique. Ça a été fait. Par des médias français, mais pas seulement les médias, mais même par des responsables politiques de l'État français qui ont incité, en tout cas, qui parlent de menaces d'extermination de certaines populations, notamment on a parlé de Peul.
À l'époque, je crois qu'il y a des peuples qui sont sortis pour dire que ce n'est pas le cas au Mali, que nous vivons en symbiose les uns avec les autres. Il n'y a pas d'ethnicisme dans notre pays. Mais le rapport de Moura aussi, qui incrimine notre armée, je ne sais pas, pour crime contre l'humanité. Mais ce n'est pas vrai. Tout ça, ce sont des stratagèmes, des subterfuges de la part, en tout cas, d'un certain nombre de pays pour décourager notre armée, mieux que ça, pour plonger notre pays dans la crise, afin que, parce que c'est dans la crise, très généralement, que ces gens se prospèrent. Ils l'ont fait en Rwanda. Il y a des responsables militaires français qui ont témoigné l'implication de la France dans le génocide rwandais. Donc, ne dites pas qu'il n'y a pas de compétition, surtout là où nous sommes aujourd'hui avec la crise en Ukraine. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, il y a une forte compétition au niveau, en tout cas, des Nations Unies par rapport...
D'accord, on va parler maintenant de l'accord. Est-ce que ce retrait-là ne va pas nous inquiéter concernant la mise en œuvre de l'accord, quand on sait que la MINUSMA est le principal garant, sinon l'un des garants de cet accord. Qui va veiller désormais sur cet accord ?
C'est à moi la question ?
Oui.
D'accord. Bon.
Le cabinet, c'est à vous.
Voilà. Donc, bon, enfin, moi je pense que la MINUSMA, c'est un dispositif des Nations Unies, de l'ONU. Le Mali reste un membre. Le Mali n'a pas demandé à quitter les Nations Unies. Le Mali a demandé à ce que la MINUSMA parte de son territoire. Donc, s'il y a un accord, évidemment, entre le Mali et des groupes armés, je pense que les Nations Unies pourront toujours, en tout cas, être là pour faire en sorte que la paix qu'on peut installer dans notre pays, je pense qu'ils pourront faire en sorte que cette paix-là soit là pour que le Mali puisse retrouver la paix.
– D'accord. Docteur Ali Tunkara, faut-il craindre, en tout cas, que l'accord, la mise en œuvre de l'accord soit… compromise quand on sait que des groupes signataires ont déjà adressé une lettre au Conseil de sécurité qui disent être inquiets de la mise en œuvre de cet accord sans l'AMINUSMA.
Non, je pense que les inquiétudes sont légitimes de la part des mouvements armés. Je pense que très rapidement, pour dire à Douméa que les relations internationales n'ont profondément que la compétition, soit s'il y a lieu de réquestionner le cours qu'il a reçu, je ne sais pas où. Voilà, donc rapidement, s'agissant de l'effectivité de la donne, je suis quand même un prof de relations internationales dans les écoles militaires. Alors, rapidement, les militaires n'ont pas besoin de ça, pour dire que l'effectivité de l'accord pour la paix et la réconciliation, effectivement, le retrait non quand même concerté de la ministre, il faut être lucide avec l'analyse, pourrait non seulement le retard accusé dans l'effectivité de l'accord pourrait être aggravé, mais dans le même temps, il n'y a rien d'étonnant. Les mois qui vont suivre le départ de l'AMINUSMA, que l'accord soit même remis en cause par une des parties signataires. Ça, ce sont des inquiétudes qui sont tout à fait légitimes de les avoir.
Et qu'est-ce que cela pourrait impliquer ?
Alors, les Nations Unies, si vous avez suivi avec une attention particulière les différentes déclarations, ou en tout cas les pays membres permanents, non permanents qui ont pris la parole ce soir, beaucoup ont quand même émis le souhait à ce que les Nations Unies continuent à soutenir le Mali dans l'effectivité de cet accord pour la paix. Et le format qui est prévu, c'est de discuter avec les autorités maliennes, de mettre en place une sorte d'instance qui va avoir comme mission essentielle le suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation, mais vraiment une mission entièrement politique. Mais la même mission pourrait aussi avoir un regard sur les droits de l'homme, dont les militaires sont parfois un peu réticents à ce niveau également. Donc pour dire que les Nations Unies restent aux côtés du Mali pour l'effectivité de l'accord, mais objectivement, tout laisse croire que la dynamique dans laquelle s'est inscrite un nombre important de mouvements signataires, qui est la suspension de l'accord, et les différentes déclarations dont ces mouvements avaient fait l'objet aussi en termes de sécurisation des régions dites nord du Mali qui n'ont pas lié, tout ceci laisse entendre qu'aujourd'hui, entre Bamako, la CEMA en particulier, on ne va pas assister à des affrontements, mais la non-effectivité de l'accord risquerait d'avoir raison sur son effectivité.
Alors, au-delà des services sociaux de base qu'offre la mission, il y a aussi, en tout cas, la mission compte 15 000 éléments, casque bleu plus policiers. Alors, c'est une force quand même dissuasive, malgré le fait que les Maliens ne sont pas, la majeure partie des Maliens ne sont pas satisfaits, n'est pas satisfaite de ce qu'elle a donné comme résultat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, comment envisager le remplacement de cette force ? Comment combler le vide, comme vous le disiez tantôt ?
Alors, Rappelons que le vide qui va être laissé, il est plus lié au développement incontestablement qu'à porter la mission. Mais quant au vide sécuritaire, la mission n'est pas combattante, comme le signalait Dumbia. Donc, côté vide sécuritaire, quand on lit avec une attention particulière les maillages de l'appareil sécuritaire de décembre 2021 aujourd'hui, tous les s'entendent que l'armée malienne pourrait comme les civils sécuritaires venaient à être constatés. Attention, rappelons-le quand même, la mission onusienne ne se battait pas contre l'ennemi terroriste, mais plutôt elle servait à s'interposer si le Mali ou une partie des rébellions venaient à s'affronter. Donc pour dire que le vide sécuritaire qui va être laissé, il pourrait être comblé, pour preuve, quand on regarde la tenue du référendum passé, l'armée malienne vous dira, ça reste à confirmer par des éléments factuels, qu'elle a pu sécuriser tous les processus référendaires à 95% sans aucun apport de l'aménagement. Or, les élections précédentes, rappelons-le quand même, l'aménagement a joué un rôle extrêmement important, tant du point de vue logistique et même sécurisation des urnes.
Alors, Cheikh Oumar Doumbia, avec le renforcement des capacités des forces maliennes en termes d'équipement et des ressources humaines qu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de souci à se faire quant à, en tout cas, à jouer ce rôle de dissuasion de l'aménagement dans le pays?
On a plus d'un million de kilomètres carrés et moins de 500 000 soldats, moins de 100 000 soldats. Il y a un souci en termes de sécurisation et l'effectif en est le premier indicateur. Cela dit, si les gens ont décidé d'aller dans ce sens, ils doivent avoir un plan.
Il y a des recrutements qui sont en cours quand même.
Oui, mais cela ne nous permet jusqu'à présent pas d'atteindre plus de 1 soldat pour 6 personnes. Donc c'est quasiment une armée qui... 300 personnes, merci. C'est quasiment une armée qui, en termes d'effectifs, hein, n'existe presque pas. Mais cela dit, il y a des points importants qu'il faut observer. Parce que quand j'écoute mes deux amis, vous voyez que les propositions faites par le secrétaire général des Nations Unies reviennent. Cette continuité de participation face vis-à-vis d'une mission 100% politique, intégralement politique, comme il avait signalé, revient sur la table. C'est que c'est une décision qui semble beaucoup plus aller dans le sens de donner une certaine liberté d'action à notre armée. C'est une décision de guerre qui est appuyée sur un ressenti émotif, mais qui n'est pas forcément politiquement correcte. Et cette absence du politiquement correct va certainement se faire sentir, notamment dans le dialogue avec le groupe armé, qui vont prendre une position certainement radicale, et comme je l'ai signalé, ça nous ramène dans le schéma soudanais automatiquement, mais aussi ce qui va devenir de plus en plus compliqué, c'est de pouvoir compter sur l'apport des États membres des Nations Unies pour contribuer à la mise en place de cette paix-là, parce qu'ils ne sont plus engagés dans un cadre collectif. C'est à chacun de choisir sa position, et le choix de cette position-là va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus délicat. Pour revenir à la question de cette compétitivité, les relations internationales ont une seule vocation, c'est de mettre fin à ça. C'est qu'il n'y ait pas de compétition, que les gens puissent tomber d'accord. C'est pourquoi on parle de multilatéralisme ou d'intergouvernementalisation. Et cette intergouvernementalisation qui s'affirme dans des missions comme celui-ci-là, nous venons de le perdre, il y aura certainement des conséquences. Et elles seront militaires, elles seront aussi civiles. Donc, à notre État d'avoir un plan qui va permettre de répondre à partir de décembre.
D'accord. Quel peut être ce plan, Bakabini? Qu'est-ce que l'État doit faire maintenant pour que ce départ de l'amusement ne soit pas ressenti par la population?
Bon, écoutez, je pense qu'il y a une promotion de la peur aussi qu'il faut dénoncer. C'est-à-dire qu'on fait trop peur aux gens. Mm-hmm. On avait dit que si Barkhane partait, le Mali allait disparaître sur la planète. Mm-hmm. Le Mali est toujours là et il sera toujours là. Et on est en train de nous faire croire aussi que l'aménagement, quand elle va partir, le Mali ne sera pas là. Mais je vous rassure, mon cher ami, le Mali sera...
pas dit que le Mali ne sera pas là.
Non, bon...
Il ne faut pas me donner le mot que
je n'ai pas donné. Oui, allez-y. On est pratiquement à la fin de l'émission.
Oui, donc le Mali sera là, et je pense que les autorités maliennes, avant de prendre cette décision, ont mûrement réfléchi, ont pris des dispositions. Vous avez vu comment des équipements ont été payés. Et comme donc Ali l'a dit, il y a des recrutements en cours, il y a la formation des militaires, des policiers. Donc je pense que des dispositions sont en train d'être prises pour faire en sorte que le Mali a dit... Nous l'avons.
Mais l'aménagement n'est pas que ce volet sécuritaire. Ils l'ont dit, les emplois créés,
oui, ces gens qui sont. Écoutez, il revient au Mali, il revient aux autorités maliennes. C'est pourquoi ils dirigent le Mali. Mm-hmm. C'est pour, en tout cas, dans la mesure du possible, apporter le bien-être au peuple malien.
D'accord. Cela est bien compris. Docteur Ali Tounkara, on termine par vous. Que faut-il faire aujourd'hui pour que ce départ ne soit pas ressenti ou bien que les conséquences soient moins ressenties?
Non, côté développement, ça va être forcément ressenti parce que les engagements ont été pris à l'endroit de ceux-là qui bossaient, qui travaillaient avec la force Barkhane. Malheureusement, ces engagements n'ont pas été honorés. Donc, il n'y a rien d'étonnant que ces milliers de Maliens, qui soient en emploi direct ou indirect avec l'aménagement, ne grossissent pas aussi les rangs de l'ennemi. Ça, ce sont des craintes dont il faut les étudier sans passion. Et je pense que ça, il est de la responsabilité de l'élite militaire au pouvoir aujourd'hui, de dire à l'aménagement de quitter sans délai, mais dans le même temps, de veiller aussi à ce que les causes structurelles du conflit soient également attaquées avec satisfaction. En termes de réponse développementiste.
D'accord, et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue. On parlait de la fin de la MINUSMA au Mali. Le Conseil de sécurité l'a décidé aujourd'hui. La MINUSMA commencera à se retirer dès ce 1er juillet à 0h. Et ce retrait devrait prendre fin le 31 décembre prochain. Pour en parler sur ce plateau, nous avions Dr Ali Tounkara, chercheur, directeur du Centre des études sécuritaires stratégiques au Sahel, Cheikh Oumar Doumbia, analyste politique, Bakabini Keïta, également analyste politique et directeur de l'Observatoire du pouvoir et de la société. Ce grand dialogue a été réalisé par Imirana Kilou Maïga, mise en onde par Sedoun Dao. À la régie vidéo, il y avait Mamadou Ouattara, Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous et à demain.